l'émission des CM1 de l'école Raoul François.
Bonjour les petits Indiens, vous écoutez Cool Raoul. Le programme d'aujourd'hui sera une BD, donc un livre, plusieurs blagues amusantes, une figure féminine, etc. Nous allons commencer par l'interview de Fabien Clavel, l'auteur de livre dont vous êtes le héros. Il est venu dans notre classe, on a vraiment eu de la chance.
Comment êtes-vous devenu auteur ?
Alors ça s'est fait progressivement, mais c'était un peu en cinquième où j'ai dit je serai prof de français et peut-être qu'aussi je serai auteur. Et ça s'est fait comme ça, et après j'ai attendu 10 ans, mais dès que j'ai eu l'occasion, j'ai écrit.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
Alors moi déjà tout petit, j'adorais les histoires, vraiment. C'est quelque chose qui me poursuit encore aujourd'hui, où je suis toujours en train de lire une bande dessinée, un livre, de regarder une série. Donc je voulais des histoires tout le temps, partout, même avant de savoir lire. Et du coup, ça m'a donné envie d'en raconter aux autres et d'essayer, tu sais, de reproduire le plaisir que j'avais à lire les histoires, où j'ai eu des histoires qui m'ont complètement transporté. Je trouvais ça génial, j'étais ailleurs et tout. À chaque fois que j'écris, moi, j'espère que mon histoire, elle va faire le même effet au moins à quelques personnes qui vont lire mon livre.
Comment avez-vous eu l'idée d'écrire un livre dont vous êtes le héros ?
Alors, des livres dont vous êtes le héros, moi, j'en lisais beaucoup quand j'étais adolescent. J'étais un peu plus vieux que vous, mais en gros, quand j'étais au collège, j'en ai lu beaucoup. D'ailleurs, je trichais tout le temps, parce que dès qu'il y avait un combat, je le remportais, je ne lançais pas les dés, ni rien. Est-ce que vous avez tel objet ? Ben oui, bien sûr, j'avais tel objet. Et puis même, je gardais les doigts dans le livre pour aller voir. Prenez la porte de droite. Ah, vous êtes mort. Non, je vais prendre la porte de gauche, finalement. Et en fait, pendant longtemps, tu sais, ça a un peu disparu. Et la mode est revenue après. Quand la mode est revenue, moi tout de suite j'ai dit j'ai envie d'en écrire. Voilà, toujours pareil pour essayer de retrouver le plaisir que j'avais en suivant ces histoires.
Est-ce qu'un livre, ça peut être comme un jeu ?
Alors là, oui, c'est des livres-jeux, donc c'est sûr, la réponse est forcément oui, mais pour moi, quasiment tous les livres sont un peu des jeux, parce que toi, en tant qu'auteur, tu joues un peu avec le lecteur, notamment, tu sais, en lui cachant des informations. Quand tu as des histoires de suspense, par exemple, c'est vraiment, tu caches l'information, toi, tu sais ce qui va se passer derrière, mais tu dis pas au lecteur et tu retardes le moment où tu vas lui dire. Et puis, tu vas aussi pouvoir, tu sais, éveiller sa curiosité, où tu présentes un personnage et il est en train de faire quelque chose, et tu dis, mais pourquoi il fait ça, ce personnage, et tout, et toi, t'attends. Tu vois, tu joues, et toi, de ton côté, en lisant, tu joues aussi parce que tu t'essayes de deviner, en disant, mais pourquoi il fait ça ? Peut-être qu'il fait ça, peut-être qu'il fait ça. Moi, je te laisse des indices, et parfois, des fausses pistes. Et du coup, il y a vraiment un jeu dans la lecture, mais dans pratiquement tous les livres. Donc, le livre-jeu, pour moi, c'est qu'une version du jeu qu'on peut faire avec une histoire.
Est-ce que votre cerveau fait des nœuds lorsque vous écrivez un livre ?
Non, il ne fait pas des nœuds, par contre, il tourne tout le temps. Quand j'écris un livre, je vous avais peut-être raconté, quand ma fille est née par exemple, je ne pouvais plus écrire de roman, tellement j'étais fatigué, parce qu'il fallait que je la nourrisse la nuit, et j'étais vraiment épuisé, donc j'écrivais des textes courts. Donc il faut que le cerveau il fonctionne bien, et effectivement mon cerveau il est toujours en train de tourner, parfois sur plusieurs livres en même temps, etc. Et parfois je me suis rendu compte qu'il y a certains matins, où alors par exemple quand je travaille sur des jeux de société, il y a des fois où je me réveille le matin et je suis en train de jouer. Tu vois, je ne sais pas si j'ai joué dans mes rêves ou si mon cerveau a continué une opération qu'il avait commencé au coucher, mais il y a des matins où je me suis réveillé, j'étais en train de jouer, j'étais en plein milieu d'une partie, et même je me suis dit « Ah, je pourrais changer ça dans mon jeu, etc. Ce serait encore mieux, etc. » Voilà, donc le cerveau, il tourne un peu tout seul.
Qu'aimeriez-vous que les enfants ressentent quand ils lisent vos livres ?
Ah bah, j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure. Déjà, des émotions, si possible, et surtout du plaisir. Moi, je veux écrire des livres qui fassent plaisir aux gens, où tu en aies un bon souvenir, et si possible, que tu aies envie de le relire plus tard. Et moi, j'essaye toujours d'écrire des livres qui puissent être relus, et qui puissent être relus avec plaisir, même 10 ans plus tard. Où tu te dises, oh, ça, j'avais pas vu, j'avais pas compris, tu vois. Encore une fois, le jeu. Tu caches un peu des choses que tu vois pas forcément. Par exemple, t'es un peu trop jeune, donc il y a des choses que tu vois pas encore, parce que déjà, c'est pas ce qui t'intéresse et tout. Et si tu le relis plus tard, ou tu dis à tes enfants, dans le meilleur des cas, tu vois, oh, j'ai lu ça quand j'étais petite et tout, j'ai trop envie que vous lisiez, et que, en le relisant, tu dises, oh, ah ouais, il m'avait offert plein de choses que je n'avais pas vues à ce moment-là. Tu vois, donc Le mot vraiment, c'est que moi j'essaye de me faire plaisir en écrivant, même en écrivant une histoire triste ou une histoire dramatique. On peut avoir du plaisir, tu vois, même dans un roman d'horreur par exemple. On a peur, mais on a plaisir à avoir peur. Donc c'est pas forcément que des émotions positives, mais qu'on ait quand même une impression de plaisir, quelque chose d'agréable qui fait du bien.
Quel est le prochain livre que vous allez écrire ?
Alors là, je suis en train de travailler pile en ce moment à une réécriture d'une épopée africaine avec une autre autrice qui s'appelle Estelle Sarabulle. Et on travaille tous les deux en ce moment. En fait, tu vois, je lui ai renvoyé un chapitre il y a 2 jours. Et elle va m'en renvoyer un. Et en fait, on s'est mis à deux pour raconter vraiment l'épopée de Soundiata Keïta, qui est un très très grand héros d'Afrique de l'Ouest, qui est très très célèbre du Moyen-Âge africain. Et là, on est en train de l'écrire tous les deux. Et en fait, on va très vite, parce que ça fait longtemps qu'on a très envie de l'écrire. Et là, on est quasiment à la moitié, et peut-être qu'on va finir dans quelques semaines. Et donc, on est vraiment à fond dessus.
Merci.
C'était l'interview de Fabien Clavel. Maintenant, passons à Camille et Samuel qui vont vous présenter la BD Imbattable.
Salut les amis, aujourd'hui nous allons vous présenter la bande dessinée Imbattable. C'est qui Imbattable ? C'est une table ?
Mais non, c'est le personnage principal d'une bande dessinée.
Ah bon ?
Bah oui, elle a été écrite par Pascal Jousselin. Il y a 3 tomes de cette BD. Le personnage principal, grâce à son super pouvoir, peut traverser les cases de la BD. C'est pourquoi c'est le seul et véritable héros de la bande dessinée. Il a des amis, le capitaine Jean-Pierre, Toudy, et il a aussi un ennemi, le savant fou.
Tu peux donner un exemple de la manière dont il utilise son super pouvoir ?
Par exemple, à la première page, pour arrêter les méchants, il tire au flashball sur la case au-dessus. Sacré imbattable.
C'est possible ?
Ben, c'est un super héros.
Et pourquoi c'est bien ce livre ?
C'est marrant parce qu'au début on ne comprend pas, ça fait des nœuds dans le cerveau cette histoire de personnages qui traversent les cases. Mais à la fin, on finit par comprendre. Aussi, le savant fou fait n'importe quoi et perd à tous les coups contre Imbattable.
Il est très rigolo.
Nous vous recommandons donc la lecture de cette super BD.
Maintenant passons aux blagues du jour de Manoé.
Qu'est-ce qui est vert et qui pousse ?
Un haricot vert ?
Bah non, c'est un alien dans les toilettes. Pourquoi Raoul c'est cool ?
Parce que c'est cool.
Bah non, parce que ça roule ma poule.
Maintenant, nous enchaînons avec la figure féminine de Manoé.
Bonjour à tous, je m'appelle Manoé et je vais vous présenter Rosa Parks. Elle est née en 1913 dans l'état de l'Alabama. Elle s'est mariée avec Raymond Parks. Cette dame s'est occupée de sa mère et de sa grand-mère qui était malade. Rosa Parks a connu très tôt le racisme car elle est allée dans une école réservée aux Noirs. En 1955, un événement l'a rendue célèbre en prenant le bus après le travail. Elle a décidé de s'asseoir au fond du bus et elle a pris les places qui étaient réservées aux Blancs. Rosa Parks s'est battue pour l'égalité des droits. Elle est morte en 2005.
Merci Manoé.
De rien.
Et maintenant, passons à la présentation du futné par Alexandre et Yann.
Le futné, aussi appelé tennis de ballon, a été créé en 1920 et il est arrivé en France en 1943.
Ce sont des Tchèques qui ont voulu mélanger 2 sports, le foot et le tennis. Ce sport oppose 2 équipes d'une à 3 personnes, mais le mieux c'est le 2 contre 2. Les joueurs sont séparés par un filet sur un terrain rectangulaire avec une aire de jeu et une zone de dégagement.
Le but est de faire rebondir le ballon dans la partie adverse sans que l'autre équipe ne parvienne à le renvoyer.
Merci. Pour terminer, passons à Ellie et Parine qui vont vous présenter le maloya.
Le maloya est une musique réunionnaise qui a été créée clandestinement par les esclaves africaines et les malgaches de la Réunion.
Qu'est-ce que ça veut dire clandestinement ?
Ça veut dire qu'ils se cachaient pour jouer de la musique parce que c'était interdit. Cette musique servait à exprimer leur douleur et leur souffrance, un peu comme les chants de travail.
Quel instrument on joue pour faire le maloya?
Il y a le kayam. C'est un instrument en tige de fleurs de canne avec des grains. Ça fait un peu le bruit des maracas. Il y a le rouler. C'est un gros tambour frappé à deux mains. Il est fabriqué dans un tonneau sur lequel on fixe une peau de chèvre. Il y a le piquer. C'est un instrument fait de morceaux de bambou sur lequel on tape avec des baguettes. Le bobre, un arc musical. Les instruments du maloya ont été interdits jusqu'en 1981.
Est-ce qu'il y a d'autres instruments?
Oui, on peut en utiliser d'autres, comme le djembé. Mais le plus important, c'est le chant. Parfois, ce sont des chants religieux, des fois des chants pour faire la fête.
Pourquoi c'est bien?
C'est bien parce qu'ils expriment leur émotion en chantant. Même si c'est une musique d'esclave, on entend que ça rend libre le maloya. Aussi, comme c'est une musique avec un rythme à trois temps, c'est différent de nos musiques d'ici, et aussi ça donne envie de danser.
Qu'est-ce que tu nous conseilles d'écouter pour découvrir le maloya?
On peut écouter l'Indigo, un chanteur créole, ou la Météo de Daniel Waron. C'est ce qu'on va écouter tout de suite.
Où connaît-on ça, où ça va? Malenda la Réunion. Osanana toute bonne nation té. On me l'a grandi dans le maloya. On me l'a grandi dans le cabaret. Pour ça, je dis mi de bon Dieu. Pour ça, je dis mi un bon Dieu. Où t'es mon temps, t'es t'y saute.
African Mata.
Gaïa mon analyse.
African Mata.
Avoir écouté, on se retrouve bientôt pour un prochain podcast.
Mmh.